spiritualité laïque et spiritualité chrétienne, de quoi est-il question ? Point de repère et de discernement. Nous commencerons par une petite phrase d'un chapitre de l'exhortation apostolique de la joie de l'Évangile du pape François, qui dit, au paragraphe 63, « La foi catholique de nombreux peuples se trouve aujourd'hui devant le défi de la prolifération de nouveaux mouvements religieux, quelques-uns tendant au fondamentalisme et d'autres qui semblent proposer une spiritualité sans Dieu, une spiritualité que l'on pourrait dire laïque. » Alors on va essayer de définir en quelques mots ce qui révèle de la spiritualité laïque. Eh bien, c'est tout simplement impossible en quelques mots de le faire. Notre approche sera donc très partielle et aura pour point d'attention seulement quelques éléments. Tout d'abord, revenons à la définition et à l'étymologie. C'est très important de revenir toujours à l'étymologie, à la racine des mots. Spiritualité. Ce qui concerne ici la spiritualité, dans ce que nous allons dire ce soir, est relative à la vie spirituelle ou à la vie de l'esprit. Cela peut aller de l'activité intellectuelle à la manière de penser. En tous les cas, la racine latine est « spiritus ». Et il est intéressant de constater que cette même racine a donné le mot « respirer », « inspirer », « expirer ». Comme si le souffle, la respiration, en lien avec l'air qui est l'élément le plus immatériel, était l'interface entre le monde de la matière et le monde de l'esprit. D'ailleurs, et là c'est le kinésithérapeute qui parle, en tout cas c'est la déformation professionnelle, le muscle le plus important de la respiration, qui est au centre de notre corps et qui forme le plancher de notre cage thoracique et le plafond de notre abdomen, s'appelle le diaphragme. Ou en langage médical, on l'appelle aussi le centre phrénique. Or, phrène veut dire état d'âme, état d'humeur, état d'esprit. C'est dire si les anciens avaient repéré qu'au centre de notre corps, en lien avec la respiration, ce muscle était l'interface entre soma, le corps, et psyché, l'esprit. En français, nous pouvons conjuguer le verbe expirer à la forme active, j'expire, et non à la forme passive. On ne peut pas dire « je suis expiré ». Nous pouvons conjuguer le verbe « inspirer » à la forme active, « j'inspire », mais également à la forme passive, « je suis inspiré ». La question qui nous occupe ici est de savoir qu'est-ce qui nous inspire ? Qui ou quoi nous inspire ?
Oui.
On est d'accord. On va pouvoir continuer. Déjà, nous trouvons une différence essentielle entre l'Orient et la tradition judéo-chrétienne au sujet du souffle. En Orient, il s'agit de maîtriser l'énergie vitale qui circule dans le prana, comme le font les maîtres yogis par des exercices de pranayama ou de yoga respiratoire. Le qi ou le chi des Chinois est cette énergie concentrée au centre du corps qu'il faut savoir maîtriser par des exercices ascétiques. Dans cette conception, le sommet de la vie spirituelle passera nécessairement par la maîtrise de ces énergies ou de ce souffle pour maîtriser son mental. Il s'agit de pratiques qui pourraient être considérées comme laïques, en ce sens qu'elles ne nécessitent pas de croyances particulières, mais une pratique assidue. Cependant, si nous nous référons aux écrits ou paroles des maîtres de ces traditions orientales, nous constatons que tout un système de croyances y sont attachées. Une conception de l'homme et du monde, de la vie, de la mort, de la vie après la mort, sont ainsi indissociables de ces pratiques. Dans le judéo-christianisme, le souffle, ou spiritus en latin, pneuma en grec, ruach en hébreu, se reçoit de Dieu. L'homme est comme une terre insufflée par Dieu. une terre qui a été façonnée à son image et à sa ressemblance, et Dieu a soufflé dans ses narines une haleine de vie, et le texte nous dit, et il est devenu une âme ou une gorge, si on veut être plus proche de l'hébreu, vivante. Donc en hébreu, ce souffle, cette rouar en hébreu, se reçoit de Dieu. Et donc, il n'est pas maîtrisable. C'est un cadeau permanent. C'est une gratuité qui nous vient d'un don de Dieu et qui nous donne la vie. Cette simple remarque sur le souffle ou l'esprit permet d'envisager déjà des différences fondamentales quant aux différentes spiritualités. Ça vous paraît clair pour l'instant ? Le mot laïque définit ce qui appartient au peuple, laos, et par conséquent qui n'appartient pas au clergé, ou bien qui est indépendant de toute opinion confessionnelle. La spiritualité redevient à la mode. On en parle beaucoup de spiritualité aujourd'hui. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Ou plutôt, donc, c'est pas tellement la spiritualité que l'expérience spirituelle. Expérience spirituelle vécue sans lien nécessairement avec les religions traditionnelles, donc hors de cadre institutionnel. Cette recherche est personnelle et rejette a priori tout cadre formel, toute interposition d'une église régulatrice authentifiant l'expérience. Il s'agit de trouver la source spirituelle par ses propres moyens, sans s'embarrasser ni de dogmes, ni d'histoire. Cela peut être caractéristique d'une spiritualité laïque qui revendique autonomie et liberté intérieure. En positif, cette spiritualité ne fait allégeance à personne et par conséquent échapperait aux dérives sectaires. En négatif, l'expérience spirituelle personnelle, n'ayant de compte à rendre qu'à elle-même, peut se perdre dans des dédales d'une subjectivité incontrôlée et incontrôlable, puisqu'il n'y a aucune norme, aucun dogme, aucune église régulatrice. La spiritualité laïque peut revertir deux aspects selon qu'elle se situe dans une expérience d'intériorité ou une expérience d'altérité, expérience vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de l'autre. Les deux n'étant ni contradictoires ni exclusives l'une de l'autre. On peut faire en même temps une expérience d'intériorité et puis de relation à l'autre. L'expérience intérieure est d'un autre ordre qu'une démarche psychologique de type psychanalytique ou psychothérapeutique ou même de développement personnel. Il y a une recherche à travers cette recherche intérieure, de l'expérience intérieure, de silence, de solitude, de méditation, qui n'est pas d'ordre psychologique, mais plus intérieure. Une recherche moins de l'expression que de l'impression de l'expérience. Cette intériorité n'est pas enfermement narcissique, elle peut au contraire favoriser une expérience d'altérité. L'expérience de l'altérité qui est une ouverture respectueuse au mystère de l'autre. Il s'agit également d'une ascèse qui m'oblige à ne pas réduire l'autre à mes champs conceptuels, à ce que je crois, à ce que je pense. Cette ascèse m'invite à l'étonnement. Être prêt à rencontrer l'autre, c'est être prêt en même temps à être étonné par l'autre, par ce qu'il pense, par son comportement. La démarche d'intériorité qui peut aboutir à une grande confiance en soi se heurte à la réalité de l'autre qui m'oblige, si je veux réellement le rencontrer, à un déplacement qui peut éroder ma propre cohérence. Ce décalage permis par la rencontre de l'autre est précisément une expérience d'altérité. Et il peut ouvrir précisément sur une autre perspective. Alors oui, la Bible ne cesse de relater cet inattendu au sein même de nos expériences humaines. Quelque chose de neuf, d'inimaginable advient. et la réalité s'en trouve transfigurée, non pas changée, mais transfigurée dans l'expérience biblique. Le père des croyants, Abraham, je l'ai noté, vous l'avez noté sans le H, parce que quand il fait cette expérience-là, il s'appelait Abraham. C'est seulement après l'expérience du chêne de Mambré qu'il va retrouver un H et s'appeler Abraham. Donc le père des croyants, Abraham, fait cette expérience de l'intériorité et de l'altérité. Quand il reçoit cette parole du tout autre, quand il est à Our, en Chaldée, et il reçoit cette parole qui est « Lech Lecha », qui se traduit, c'est de l'hébreu, qui se traduit par « Va au plus loin de toi-même et va vers toi-même ». C'est-à-dire, va dans le pays que je te montrerai, mais va au plus loin hein, de là où tu es, où sont tes habitudes, mais en même temps, ça veut dire « va vers toi-même ». Ces expériences de l'intériorité et de l'altérité, deux femmes qui se disaient laïques, Simone Veil et Etty Ellison, qui ont traversé les drames du XXe siècle, ont fait cette expérience de Dieu en elles-mêmes et dans l'autre. L'expérience d'Etty Ellison sera de l'ordre de l'expérience intérieure. Et voilà ce qu'elle dit. Cet après-midi, je me suis retrouvée tout à coup agenouillée sur la carpette brune de la salle de bain, la tête ensevelie dans mon peignoir qui traînait sur la chaise de rotin. Je ne me suis pas sentie capable de bien m'agenouiller. J'en ressens une sorte de gêne. Pourquoi ? Sans doute parce qu'il y a en moi un penchant critique, rationaliste, voire athée. Et pourtant, il y a en moi en même temps une profonde aspiration à m'agenouiller, les mains sur le visage, et à trouver une paix profonde en me mettant à l'écoute d'une source cachée au plus profond de moi-même. Expérience inattendue, mais qui la saisit et qui, d'une certaine manière, l'oblige, mais l'oblige en toute liberté. L'expérience de l'altérité sera celle de Simone Veil dans ce qu'elle appellera la descente de Dieu. C'est Dieu, le tout autre, qui a pris l'initiative et qui est venu à sa rencontre, prenant aussi la médiation de l'autre. Et voilà ce qu'elle dit. Remarquez que dans l'Évangile, il n'est jamais question, sauf erreur, d'une recherche de Dieu par l'homme. Dans toutes les paraboles, c'est le Christ qui cherche les hommes, ou bien le Père les fait amener par ses serviteurs. Donc il se sert de la médiation de l'homme, de l'autre, pour arriver à cette rencontre. Dans un cas comme dans l'autre, intériorité ou altérité, survient un moment non prémédité qui bouscule les certitudes premières et que la mystique chrétienne appelle conversion. Ça va jusque-là ? Mais voilà ce que dit... Et ce que dit, d'une certaine manière, la spiritualité laïque. Et nous allons citer une formule que l'on retrouve dans La Peste de Camus. Il a fait dire cette formule est provocatrice, et celle d'un héros de Camus dans La Peste. Être saint sans Dieu. Tarou, le héros, veut savoir comment on devient un saint sans Dieu. L'homme devient, tout d'un coup, à travers les drames du XXe siècle, tout seul pour résoudre la question du sens. Et là, nous allons retrouver les deux grands philosophes que l'on entend souvent sur les ondes, et qui en tout cas écrivent beaucoup de livres, Luc Ferry et André Comte-Sponsville. Et ils ont écrit un livre commun qui s'appelle « La sagesse des modernes ». L'intériorité n'ouvre pas à la reconnaissance de l'autre transcendant, vous avez vu, avec un grand A. Hein ? Donc il ne s'agit pas de l'autre transcendant. L'autre transcendant au monde du divin, à un au-delà de l'homme, mais sur l'absolu, ici et maintenant, une transcendance, mais dans l'immanence. C'est-à-dire que toute transcendance, dans cette spiritualité-là, ne peut être que dans la réalité du monde actuel, à travers l'épaisseur et toutes les difficultés de ce monde. Dans la société sécularisée, la spiritualité laïque authentique, selon Luc Ferry, s'est débarrassée de ses oripeaux théologiques. Le divin s'humanise et l'humain se divinise, mais se divinise sans Dieu, sans la grâce de Dieu. Par conséquent, c'est à l'intérieur de l'homme et non en dehors de lui ou au-delà de lui que la transcendance peut être approchée. La société démocratique favorise le passage d'une transcendance verticale, qui est celle de notre relation à Dieu de manière verticale, par la médiation notamment de la religion catholique, qui était majoritaire, de cette transcendance verticale à une transcendance horizontale. En effet, le sacré ne réside pas ailleurs que dans l'homme, qui devient donc à ce moment-là l'homme-Dieu. On est dans une perspective horizontale. Il n'y a pas de perspective transcendante verticale. Luc Ferry repère dans la société contemporaine de nombreux signes qui expriment non seulement le caractère sacré de l'homme, mais aussi sa capacité au sacrifice pour le bien commun. Le sacrifice pour le bien commun étant quelque chose de tout à fait important dans la pensée de Luc Ferry, notamment dans les formes d'engagement humanitaire au service de la vie de l'homme et du respect de sa dignité. La liberté peut mériter, dit-il, que l'on risque sa vie pour elle. C'est cela, pour lui, la sacralisation de l'humain. Vous voyez, on est toujours dans une perspective extrêmement horizontale. Cette spiritualité laïque veut se convertir au réel et entend se débarrasser de toute illusion. Il s'agit d'assumer la vie telle qu'elle est et non telle qu'on pourrait la rêver. Le sacré habite, pour ces philosophes, le quotidien et le moment présent. Et en cela, André Comte-Sponsville se rapproche d'une certaine manière de la sagesse bouddhiste. D'ailleurs, il est assez, quand on le lit, il est assez référent à cette sagesse bouddhiste. Luc Ferry est fortement influencé par le kantisme d'Emmanuel Kant et plaide en faveur d'un humanisme transcendantal selon lequel il y a du sacré en l'homme et d'une certaine manière du divin en l'homme, c'est-à-dire des valeurs transcendantes et absolues, mais, encore une fois, sans le Dieu de la révélation, le Dieu biblique et le Christ de l'Évangile. L'humanisme transcendantal désigne ici la position hors nature du propre de l'homme, dans la mesure où il échappe au déterminisme qui régissent les phénomènes naturels. Donc l'homme peut être hors de cette nature qui régit les phénomènes naturels, et pour Ferry, les sciences humaines ont trop tendance à réduire l'homme à des déterminismes bio-sociaux historiques. Donc l'homme n'est pas que cela pour Luc Ferry, il est capable de sacrer, et notamment quand il donne sa vie pour des causes humanitaires ou pour des causes qui le dépassent. A l'inverse, Sponville se reconnaît davantage dans la tradition de la philosophie sceptique et matérialiste. Sponville se rapproche de la sagesse bouddhiste, nous l'avons dit. Il rejette le nihilisme. Le nihilisme, vous savez, c'est d'une certaine manière de nier tout apport d'une morale ou de... voilà. Pour lequel il n'y a ni perdu, ni permis, ni défendu. Les notions de vérité ou de valeur s'inscrivent pour lui dans un nouveau dogmatisme. Vous voyez, pour ces philosophes, ils veulent se dédouaner finalement de tout dogme ou de tout apport qui viendrait de la religion judéo-chrétienne, c'est-à-dire de la révélation. Ces deux philosophes pensent que c'est bien la primauté de l'amour et du respect de la vie qui donne à la morale sa véritable signification, mais une morale libérée des illusions sécurisantes de l'espérance religieuse. Vous voyez ? Donc là, vraiment, on est dans une perspective purement horizontale et tout rapport à un Dieu qui serait transcendant à notre vie est absolument n'est pas considéré. Mais Sponville se définit aussi comme un athée fidèle. Athée parce que les religions révélées sont, selon lui, un asile d'ignorance. Vous voyez, hein, un asile d'ignorance pour les religions révélées, c'est de dire combien il se situe vraiment en surplomb, lui, le philosophe, par rapport à ceux qui sont encore dans ces asiles d'ignorance. Fidèle parce qu'il reconnaît certaines valeurs intéressantes dans le judéo-christianisme, notamment dans la morale des évangiles. Il affirme que l'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour comprendre que l'amour et la compassion valent mieux que la haine. Ferry est sans doute plus proche d'un personnalisme chrétien d'Emmanuel Mounier en raison de son apologie d'une spiritualité de la personne et de l'espérance, très éloigné donc de la dissolution de l'ego, chère au bouddhisme, et sans véritable espérance selon Ferry, et là il s'éloigne de la pensée de Sponville. Alors, après cet aspect un peu philosophique, nous allons essayer de revenir sur des choses un peu plus concrètes. Peut-il y avoir une spiritualité sans Dieu ? Il ne s'agit pas pour nous chrétiens d'être préalablement défiant ou critique face aux personnes qui cherchent en vérité un chemin d'intériorité, une meilleure relation à elles-mêmes ou une meilleure relation aux autres dans une perspective altruiste. Elles peuvent faire bouger les chrétiens, les obliger à une attention renouvelée à l'autre, au respect de cette quête d'authenticité intérieure. Donc nous avons à véritablement avoir beaucoup de respect pour toute personne qui sont en quête de spiritualité. Vatican II a mis l'accent sur le dialogue avec le monde, sur l'importance d'observer les signes des temps et d'y découvrir ce que l'Esprit dit aux églises. Une écoute bienveillante, une écoute gratuite, sans désir de récupération est nécessaire. Une écoute avec ensuite le risque, quand cela est possible, et avec douceur et bienveillance, d'une parole permettant de relire et de relier ce qui est dit par la personne avec sa propre expérience spirituelle, si on est dans un authentique dialogue, avec sa propre lecture de la Bible, mais toujours avec l'exigence, si je demeure catholique, de rester fidèle à l'enseignement du magistère de l'Église. Ainsi, ma propre subjectivité rejoint et adhère à la foi de l'Église et me garde de toute atomisation spirituelle et de tout subjectivisme. Aujourd'hui, la difficulté dans cette expérience spirituelle, quand on n'est référent qu'à soi-même et pas à la tradition à laquelle on appartient, eh bien, on peut devenir des atomes, hein, libres de toute tradition. Et c'est ce que j'ai voulu signifier là. Cependant, voici quelques exemples qui sont symptomatiques d'une pratique qui se prétend laïque, mais est en fait une forme de spiritualité déguisée qui peut entraîner loin d'une spiritualité authentiquement chrétienne. Alors, vous avez Frédéric Lenoir, que l'on voit sur tous les plateaux de télévision, écrit je ne sais combien de bouquins, qui est précisément le chantre de cette spiritualité. Et nous allons peut-être en quelques mots dresser quelques points qui nous paraissent problématiques quant à cette spiritualité proposée par Frédéric Lenoir. Ses livres et ses articles font l'apologie d'une spiritualité universelle et syncrétique transcendant toutes les spiritualités, donc sans dogme ni théologie, et par conséquent pouvant communier avec ferveur à une spiritualité laïque. Voici quelques extraits de son livre « L'âme du monde », dont voici le thème. Un cataclysme planétaire est imminent. Sept sages, un rabbin kabbaliste de New York, un chaman de Mongolie, un père moine catholique devenu ermite au Brésil, une mystique hindoue et un vieux sage chinois, et ainsi aussi un musulman soufi du Nigeria. Et puis pour couronner le tout, une philosophe néerlandaise, maçonne, franc-maçonne. Et donc tout cela, tous ces sept personnages se retrouvent dans un monastère, bien entendu, tibétain, pour transmettre à un garçon et une fille adolescent les clés de la sagesse universelle. Loin des croyances, alors voilà ce que nous dit Frédéric Lenoir, et nous retrouvons ça en quatrième de couverture, loin des croyances dogmatiques, il ouvre un chemin simple et concret d'un humanisme spirituel qui aide à vivre. Loin des croyances dogmatiques. Donc vous voyez, on fait fi de tout, finalement, ce que le catholicisme a établi au fur et à mesure de ses 2000 ans d'histoire, à savoir des dogmes qui sont pour nous des précisions de ce à quoi on croit, des précisions du credo, et qui, quand on est un peu myope, sont des prismes qui nous permettent de regarder la réalité spirituelle avec beaucoup plus de finesse et d'acuité. Or, précisément, cette dogmatique est tous les dogmes sont préalablement à rejeter au profit d'une spiritualité qui se situerait au-dessus. Hein ? Comme si nous, chrétiens, pouvions rejeter les dogmes de la Sainte Trinité, de la mort et de la résurrection du Christ, enfin tout ce que l'on dit dans le credo. Eh bien, précisément, avec ce type de livre, on se situe, vous voyez, dans une forme de syncrétisme religieux qui se situe au-delà. Alors, nous sommes avertis. Ma Amanda, la philosophe maçonne, lance le programme d'enseignement. Alors, je propose que l'enseignement que nous allons transmettre à ces enfants ne porte pas sur des croyances, mais sur l'attitude juste à avoir en cette vie pour la réussir dans le sens le plus profond du terme. Vous voyez, donc, ça ne porte pas sur les croyances, comme s'il y avait un au-delà universel, au-delà de ce à quoi l'on croit réellement. Et le soufi de répondre, je suis tout à fait d'accord. Laissons de côté les aspects théologiques et ritualistes qui distinguent nos traditions et ne gardons que les préceptes qui aident à vivre et à avancer sur le chemin spirituel. Et le prêtre catholique de renchérir, partons de notre expérience. Nous avons déjà pu constater qu'au-delà des dogmes et des rituels qui nous séparent, elle nous unit, cette expérience, dans la recherche de la sagesse. Donc vous voyez, nous sommes véritablement là, introduits dans une spiritualité très à la mode aujourd'hui. Nous avons là l'esquisse d'une religion laïque, universelle. Nul besoin de croire en Dieu ou une quelconque divinité, dit-il dans ce livre « L'âme du monde » de Frédéric Lenoir, à la page 161, « Nul besoin de croire en Dieu ou en une quelconque divinité pour prier, pour remercier, pour demander, pour sentir son cœur vibrer à l'unisson du monde. Toute parole, toute pensée, tout regard adressé à la force mystérieuse qui anime l'univers nous relie à l'âme du monde et porte du fruit. » Véritablement, vous voyez, ça, c'est une pensée qui aujourd'hui devient majoritaire dans les médias et dans un certain nombre de cénacles. Là, quand on dit cela, quand on lit cela, il s'agit de panthéisme. Nous, chrétiens, avons un choix radical à faire. Nous ne pouvons pas rendre un culte à cette âme du monde et à Dieu que Jésus nous a révélé comme notre Père. Et plus loin, voilà ce qu'il dit, et la force de nos croyances ira jusqu'à produire des événements qui les confirmeront. Hein, nous retrouvons aussi ça dans la pensée de Gounel qui dit « Ce que vous pensez peut devenir la réalité ». Monsieur Lenoir donne ici une définition de la pensée magique. Nous sommes aux antipodes de la révélation chrétienne. quand il dit « et la force de nos croyances ira jusqu'à produire des événements qui le confirmeront », nous sommes véritablement dans une inversion de perspective par rapport notamment, on aurait pu prendre bien d'autres passages de l'Évangile, mais par rapport notamment à cette finale de l'Évangile de saint Marc. Enfin, Jésus se manifesta aux onze, eux-mêmes, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et leur dureté de cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Et donc, vous voyez, notre foi chrétienne ne se centre que sur la résurrection du Christ. Proclamer l'Évangile à toute création, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Ce sont des signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Ce n'est pas ce que les croyants pensent qui va devenir la réalité. Ce n'est pas ce que les croyants pensent qui devient la réalité, comme nous dit Frédéric Lenoir, vous voyez. C'est parce que nous sommes fidèles, obéissants, et dans cette perspective de faire la volonté du Seigneur, que des signes vont apparaître qui accompagneront les croyants. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. Cette parole est confirmée précisément par des signes, mais c'est la parole qui est première, la parole de Dieu, et non pas nos propres conceptions qui pourraient changer le monde. Là, véritablement, nous sommes dans quelque chose qui ne peut pas être tenu comme fiable et vrai pour des chrétiens. Frédéric Lenoir, quand il dit « et la force de nos croyances ira jusqu'à produire les événements qui les confirmeront », nous sommes là véritablement dans une auto-réalisation et non pas une perspective d'être accueillant à la volonté de Dieu. Il faut choisir radicalement. Il n'y a pas d'alternative possible entre notre foi en Jésus-Christ proclamée dans les évangiles et l'inversion de perspective de la bouillie conceptuelle d'un Frédéric Lenoir très à la mode aujourd'hui. Mindfulness ou méditation de pleine conscience. Bien que ceux qui promeuvent cette méditation affirment qu'elle est laïque, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette mindfulness ou méditation de pleine conscience, mais elle prend de l'extension. Donc elle affirme qu'elle est neutre, laïque et aconfessionnelle, et alors qu'elle repose sur des fondements bouddhistes. La mindfulness ou méditation de pleine conscience est une méthode de méditation qui à la fois se réclame du bouddhisme et se prétend laïcisée et en dehors de tout contexte religieux. Donc vous voyez, il y a un certain nombre maintenant de techniques, de méthodes qui se présentent comme étant, entre guillemets, des spiritualités laïques, mais en fait qui ont un fondement tout à fait spécifique sur le plan de l'anthropologie. La pleine conscience, mindfulness, signifie diriger son attention d'une certaine manière, c'est-à-dire délibérément, au moment voulu, sans jugement de valeur, selon son fondateur John Kabat-Zinn. La pleine conscience, parfois également appelée attention juste, est référence, bien entendu, à des mots qui nous viennent du bouddhisme, samasati en pali, samyag smriti en sanskrit. C'est une expression dérivée de l'enseignement de Siddhartha Gautama, pardonnez-moi pour les termes un peu techniques, et désignant la conscience vigilante de ses propres pensées, actions et motivations. Elle joue un rôle primordial dans le bouddhisme où il est affirmé que la pleine conscience est un facteur essentiel pour la libération, bodhi ou éveil spirituel. L'attention juste ou pleine conscience consiste à ramener son attention sur l'instant présent et à examiner les sensations qui se présentent à l'esprit. Comment elles apparaissent? Comment elles durent quelque temps et comment elles disparaissent. Cette pratique permet de se rendre compte de façon directe si une sensation est quelquefois permanente ou bien toujours impermanente. Par la suite, le pratiquant va aussi examiner la matière, les perceptions, les habitudes mentales, positives ou négatives, la conscience, comment toutes les choses apparaissent, comment elles durent et comment elles disparaissent. L'observateur reste neutre et silencieux. C'est ce qu'on appelle le silence mental. En examinant l'apparition ou la disparition des sensations agréables, neutres ou désagréables, sans juger, sans chercher à retenir la sensation agréable ou à rejeter la sensation désagréable. Vous voyez, il y a comme une forme de distance de plus en plus importante par rapport aux événements et à la réalité. L'observateur fait l'apprentissage du détachement et il se libère progressivement de la matière, de la sensation et de la perception, des conditionnements mentaux de la conscience. Il acquiert la conviction que ce phénomène est toujours à double manifestation, joie et tristesse, donc pas de satisfaction définitive. C'est ainsi que l'attention à la respiration naturelle, nous y revoilà, vous voyez cette histoire de la respiration qui a été au point de départ de notre réflexion, anapanasati, inspire, petite pause, expire, petite pause, n'est pas une fin en soi, mais elle soutient efficacement la vitalité de la pleine conscience. Le Bouddha conseille d'observer la sensation intérieurement, dans le mental, et extérieurement, dans le corps. C'est comme si, vous voyez, tout ce que nous vivions, nous avions à en prendre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance, comme pour arriver finalement à tout maîtriser sans émotion. Mais aussi, on peut arriver à induire des sensations au niveau du corps. Par exemple, si l'observateur voit dans le mental chaud, il peut voir aussi dans le corps dilatation des vaisseaux sanguins, transpiration. Et ensuite, si l'observateur voit dans le mental froid, il peut voir aussi dans le corps contraction des vaisseaux sanguins, grelottement. Donc vous voyez, par le mental, on peut arriver à induire le corps à certaines sensations. Nous allons retrouver ça aussi dans certaines techniques, comme par exemple le training autogène de Schutz, etc. Oui. Et en sophrologie, bien entendu, nous en avions parlé. Cette étape est importante car le pratiquant apprend à voir de façon directe que le mental échange rapidement de nombreuses informations avec le corps par l'intermédiaire de l'inconscient. La pleine conscience expérimente le corps et l'esprit dans ses deux composants, conscient et inconscient, dans le but de tout nettoyer et de tout purifier. Donc, par ce type de maîtrise progressivement, vous voyez, on n'a plus besoin de l'altérité. De l'altérité avec un grand A, bien entendu. Mais on peut s'auto-gérer, auto-gérer toutes ces sensations, toutes ces... Voilà, on rejoint effectivement...
Et s'enfermer en même temps, complètement.
Effectivement, rentrer dans une forme de bulle.
Voilà. C'est ça.
Voilà. La pleine conscience, vous voyez, et là, c'est souligné en gras, la pleine conscience se situe au-delà de la première forme de sagesse, qui est la dévotion. Hein ? Il n'y a plus besoin de rentrer dans une dévotion. Et pour nous chrétiens, une dévotion à une personne, comme la Vierge Marie, comme Saint Joseph, ou comme... bien entendu, le Christ. Hein, il n'y a pas besoin de cette dévotion. Au contraire, celui qui s'y adonne est à un niveau, finalement, relativement bas. Hein. Donc, il faut dépasser ce premier niveau. Il faut aussi déposer la deuxième forme, qui est la logique de l'intellect. Donc, la notion de raison, il faut la dépasser. Hein, pour arriver à la troisième forme de sagesse, dite Bhavana Maya Pana, c'est-à-dire la vision directe de la réalité ultime, en toute chose. Vous voyez, cette distanciation par rapport à la croyance, par rapport à la raison, nous amène d'une certaine manière à une forme de laïcisation spirituelle qui n'a plus besoin d'être référente à une tradition spirituelle chrétienne, en l'occurrence pour nous. Ce n'est pas parce qu'elle s'affirme comme en dehors de tout contexte religieux que l'anthropologie qui sous-tend cette méditation est neutre. Elle se situe résolument dans la tradition bouddhiste et emprunte des termes et des techniques qui ne sont pas neutres. Cette méditation dépourvue de ses éléments spirituels est un chemin conduisant au bodhi ou à l'éveil spirituel. Elle n'est pas laïque, comme elle le prétend, mais avance masquée pour abuser de la confiance des gens et étendre son implantation. Cette expansion se fait surtout sous couvert de certains résultats médico-scientifiques. Et là, j'ai amené quelques feuilles montrant que même les universités, aujourd'hui, et des universités de médecine, proposent des formations à cette méditation pleine conscience. Parce que nous ne faisons pas suffisamment de travail sur le plan épistémologique, que d'une certaine manière, ça fonctionne. Eh bien, aujourd'hui, cette méditation de pleine conscience pénètre dans certaines universités de médecine, comme par exemple, je crois, c'est à Strasbourg, ainsi que dans des écoles, ainsi que, vous voyez, dans le monde qui se veut laïque, hein, et qui progressivement se font rattraper par défaut de culture dans ce domaine, par des techniques qui viennent pénétrer nos espaces laïques. Voilà. Donc, cette expansion se fait surtout sous couvert de certains résultats médico-scientifiques qui démontreraient des effets positifs de cette méditation sur le stress, l'anxiété et la dépression. Mais ces études dites scientifiques reposent sur des études où le chercheur lui-même est partie prenante ou parfois lui-même l'objet de la recherche. Pour certaines études, ceux qui étudient et évaluent les effets de cette mindfulness sont eux-mêmes les pratiquants de cette méditation. La méditation transcendantale, en son temps, présentait déjà des études scientifiques pour valider la méthode. Un site canadien est particulièrement intéressant. Je ne sais pas s'il est sur PNCDS 72, mais c'est très intéressant. Il s'appelle dangeryoga.blogspot.
Oui,
et il fait état de publications scientifiques et de travaux et de témoignages concernant les effets nocifs de la méditation ou de certaines autres pratiques néo-orientales. Nous pouvons y trouver les références de quelques articles scientifiques. La méditation, dans un article scientifique, il est dit, la méditation est quelquefois considérée comme étant une forme de thérapie de relaxation. Cependant, la méditation ne crée pas seulement une relaxation, mais produit aussi un état altéré de conscience. La méditation peut causer la dépersonnalisation et la déréalisation. Il y a plusieurs recherches sur l'association entre méditation et l'engendrement d'états psychotiques. Les chercheurs savent depuis 30 ans que la méditation peut aussi avoir des effets néfastes sur la santé des gens, induisant des problèmes psychologiques et physiques allant des spasmes musculaires aux hallucinations. Le docteur Salomon Snyder, chargé de la neuroscience à Johns Hopkins University, avertit que durant la méditation, le cerveau sécrète de la sérotonine. Ceci peut aider ceux qui ont une dépression légère, mais trop de sérotonine peut causer chez certains, paradoxalement, de l'anxiété. Au lieu de relaxer durant la méditation, ces personnes deviennent perturbées et peuvent avoir des attaques de panique. Alors, vous voyez, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, à Tours, notre ville voisine, il y avait donc les 3, 4 et 5 avril, les journées internationales de spiritualité laïque, avec nombre d'intervenants. Serge Troudé, président de la FWI, False Way Institute, et membre du bureau de l'association, organisa les journées pour la première fois en France. Mais cette False Way n'est autre que la quatrième voie inventée par Gurdjieff, qui influença nombre d'intellectuels français, dont Louis Powells, peut-être que vous connaissez Louis Powells, qui a été éditorialiste au Figaro tout un temps, Jean-François Revel, le père de Mathieu Ricard, vous savez, qui est celui qui fait un peu la promotion du bouddhisme tibétain en France, qui est en tout cas le bras droit du Dalaï Lama. la mère de Mathieu Iricard, Yann Le Toumelin, artiste peintre devenu bouddhiste tibétain, a été la disciple aussi de Gurdjieff. Et Gurdjieff décrit quatre voies spirituelles. La voie du fakir pour obtenir la maîtrise et l'attention à travers des exercices d'ascèse physique. La voie du moine pour obtenir la maîtrise des affections du cœur. La voie du yogi pour accueillir la maîtrise sur les habitudes mentales et les capacités. Et la quatrième voie de Gurdjieff qui permettrait aux disciples d'obtenir l'intégration de ces voies et d'atteindre plus rapidement l'illumination. Donc vous voyez, ceci étant présenté aussi comme une spiritualité de type laïque. Voilà, sous le couvert de spiritualité laïque, comment une dérive possible que le CCMM, le Centre contre les manipulations mentales, a dénoncé en son temps. Donc vous voyez que cette spiritualité laïque, quand on creuse un petit peu et ses fondateurs ou ses promoteurs, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si neutre que cela. Bien entendu, nous avons parlé dans un premier temps des philosophes qui ont une perspective intellectuelle, distanciée, et pour laquelle il y a toujours une recherche qui est tout à fait intéressante sur le plan de la raison. Et donc il faut les écouter, ils ont une pertinence dans leur manière d'élaborer leur pensée au sujet de cette spiritualité laïque. Cependant, attention, vous voyez que certaines techniques comme mindfulness ou ces journées de spiritualité laïque, sont entachées par des perspectives qui sont pour nous, en tout cas chrétiens, de véritables dérives qu'il faut dénoncer. Alors, je terminerai pour être un peu plus joyeux et dans une perspective de la joie de l'Évangile, qui est la dernière exhortation de notre pape François, peut-être en commençant quand même par ce qu'il dénonce lui-même, qui est de l'ordre de la mondanité spirituelle. Au chapitre 94, il dit que cette mondanité peut s'alimenter spécialement de deux manières profondément liées entre elles. L'une est l'attrait du gnosticisme, dont nous avons déjà parlé, une voie renfermée dans le subjectivisme, c'est-à-dire sa propre expérience, sa propre sensation d'expérience, où seule compte une expérience déterminée ou une série de raisonnements et de connaissances que l'on considère comme pouvant réconforter et éclairer, mais où le sujet reste en définitive fermé dans l'immanence, donc dans uniquement l'horizontalité de sa propre raison ou de ses sentiments. Donc vous voyez, c'est la première difficulté, c'est d'être enfermé dans des gnoses ou dans des néognoses, telles que nous avons pu en décrire quelques-unes ici. L'autre est le néo-pélagianisme, autoréférentiel et prométhéen. Qu'est-ce que ça veut dire? Pélage était un moine de la fin du 5e siècle, 480, au début du 6e siècle, 500 et quelques, et qui prétendait, ce moine, que par ses propres forces, ses propres capacités, eh bien, par rapport à sa propre ascèse, on pouvait accéder finalement au divin, à l'image de Dieu, par ses propres, expérience ascétique et spirituelle. Or, précisément, Pélage a été condamné par les conciles et les papes, parce que, si vous voulez, ce qui est premier dans la foi chrétienne, c'est la réception de la grâce de Dieu par le baptême. Et donc, ce n'est pas par nos propres forces ou par nos propres mérites que nous accueillons cette grâce divine, cette divinisation en nous, mais c'est par accueil, précisément, voilà. Et donc Pélage, et le pape en parle, parce que précisément dans un certain nombre de méthodes aujourd'hui, on prétendrait acquérir le sommet de la spiritualité par ses propres compétences ou par ses propres efforts ascétiques. Voilà. Donc voilà, l'autre est le néo-pélagianisme autoréférentiel et prométhéen, c'est-à-dire qu'on se croit tout puissant de ceux qui en définitive font confiance uniquement à leurs propres forces et se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils observent des normes déterminées ou parce qu'ils sont inébranlablement fidèles un certain style catholique justement propre au passé. Donc il dit que certains groupes chrétiens, si vous voulez, qui sont enfermés sur eux-mêmes et qui essayent à force de rituels et voilà, ils peuvent aussi être entachés de ce néo-pélagianisme. Dans les deux cas, donc dans le cas de la gnose et dans le cas du néo-pélagianisme, ni Jésus-Christ ni les autres n'intéressent vraiment. Donc vous voyez, ni Jésus-Christ que l'on peut retrouver à l'intérieur de son cœur, ni les autres que l'on va retrouver dans l'altérité, nous revenons à ce que nous avons dit tout à fait au début, vous voyez, n'intéressent vraiment. Ce sont les manifestations d'un immanentisme anthropocentrique. Hein, c'est finalement, pour le dire autrement, il n'y a que notre nombril qui nous intéresse. Alors, nous allons peut-être terminer sur cette perspective que nous donne le pape François dans son chapitre 1 de cette joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec le Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. Voilà, je terminerai là-dessus. Vous pourrez... Voilà.